Sometimes I wonder about you. Are you racing or watching?
La dispute.
Art plastique.
Arnaud Laporte.
Autour de moi ce soir, Corinne Rondeau, Sally Bonnet, Sarah Hiller-Meyer, à notre programme Léonard de Vinci au Musée du Louvre, Kiki Smith à la Monnaie de Paris et Ugo Rondinone trois fois dans les trois espaces de la galerie Kamel Menour à Paris. Puis un coup de cœur de Sarah Hiller-Meyer pour l'exposition Foncteur d'oubli au plateau. Elles ont retroussé leurs manches, toutes les trois, littéralement. Prête à en découdre avec ce programme riche, contrasté, et on ouvre forcément avec cette exposition événement que le Louvre consacre à Léonard de Vinci à l'occasion du 500e anniversaire de sa mort. Le Louvre possède, rappelons-le, 5 tableaux de Léonard, c'est-à-dire la plus grande collection au monde, puisqu'il y en a 20 qui lui sont attribués. Le Louvre possède également 22 dessins, ce qui fait déjà un bel ensemble, mais il y a 140 œuvres supplémentaires venues des collections des plus grands musées du monde qui ont rejoint cette exposition, ce qui permet au musée de Parisien de présenter 11 tableaux, notamment, de l'artiste. Les commissaires sont Vincent Dieulevin et Louis Franck. Avant d'en parler plus avant, une première impression sur cette exposition, Corinne Rondeau.
Mais vous l'avez dit, Arnaud, le Louvre est la maison de Léonard, et je dois dire que ses hôtes l'honorent.
Sarah Hiller-Meyer.
Une très belle exposition qui est très dense, assez didactique, mais ce qui n'est pas pour me déplaire, parce que ça permet de mieux éprouver, je trouve, les œuvres de Léonard.
Sally Bonne.
Où l'on voit que la peinture n'est pas une chose mentale.
On va pouvoir vraiment s'échauffer en suivant Corinne Rondeau pour le parcours de cette exposition Léonard de Vinci dans ses grandes lignes, évidemment, pour mieux savoir de quoi l'on parle.
Ben, on parle de Léonard du début à la fin, donc c'est principalement chronologique que cette exposition se présente. Et je dois dire que la première salle est une apothéose, puisqu'elle elle concerne les ombres, la lumière et le relief, mais c'est surtout une salle où il y a les drapés de Léonard. On commence donc plutôt par du travail sur du papier, on va dire, et donc une grande sculpture de Verrocchio, qui est de l'incrédulité de saint Thomas, qui est absolument magnifique et très très bien installée, d'autant
bien
qu'il joue sur la lumière,
ouais. Les ombres.
Projette une ombre. Donc cette salle est rien qu'à elle seule, vraiment une apothéose. Au-delà de cette salle qui est absolument admirable, on a ensuite tout le trajet de Léonard de Vinci, qui va commencer par son premier grand tableau, une découverte dans la peinture, un format panoramique, on va dire, de l'Annonciation, qui n'est pas là. Nous avons une réflecto graphie infrarouge qui consiste en fait à voir le dessin, la précision du dessin et les repentir des œuvres. Donc on,
à l'échelle 1.
À l'échelle 1, ce qui permet en fait d'avoir des œuvres qu'on n'a pas, évidemment. Et puis c'est une manière
aussi... Leur fantôme presque.
Oui, mais c'est une manière aussi de mettre en œuvre ce qu'il y a dans l'exposition et qu'on n'attend pas. Parce qu'on dit, oh, mais Léonard n'a pas beaucoup peint. Et finalement, en fait, il a beaucoup dessiné. Et c'est là que se joue en fait tout le travail de Léonard de Vinci, qui est une des volontés des commissaires et du Louvre de démontrer en fait où se trouve le travail. Et effectivement, cette annonciation qui n'est pas là, mais qui est là aussi, avec son caractère fantomatique de la photographie infrarouge, permet en fait de montrer déjà quelque chose d'une nouveauté chez Léonard de Vinci. Puis ensuite, on va continuer avec les années milanaises, mais entre l'adoration des mages, qui permettent de voir tout le travail du dessin chez chez Leonardo da Vinci, qui est cette manière dont il a de parler de la composition inculte, le componimento inculto, c'est-à-dire cette manière de travailler en fait grossièrement les ombres et de s'intéresser plutôt aux accidents, dit-il, mentaux des vivants qui composent l'histoire. Et dès cette entrée-là, on a vraiment la sensation qu'effectivement, c'est un autre Léonard de Vinci que celui qu'on connaît. Puis ensuite, les tableaux milanais, les fonds noirs traditionnels. Puis ensuite, deux originaux extraordinaires de la Vierge au Dévidoir. Et puis, on va aller à la fin, les tableaux qui l'ont suivi jusqu'en France, qui sont la Sainte Anne et le Saint-Jean-Baptiste. Alléluia. Et la Joconde qui est toujours dans ses salles habituelles. Et puis, une toute petite partie qui est un épilogue avec un portrait de Léonard fait par Melzi, une lettre de sa rencontre avec je ne me rappelle plus qui exactement. Plus.
Et une salle aussi de tous ces carnets.
Effectivement, il y a la salle où il y a les codex. Nous avons Windsor, la reine Elisabeth II a bien voulu prêter de sa collection royale un certain nombre de manuscrits. Il y a le codex Atlanticus, il y a le codex Arundel. Enfin, on a tout ce qui est de la British Library. On est à Windsor, on est à Milan, on est à Turin, on est à Genève. Et puis il y a l'Institut de Paris, évidemment, qui montre ça, qui est à peu près juste un moment de vertige aussi en termes de... Enfin, ces choses-là sont... Bon, écoutez, c'est merveilleux.
On va développer tout cela, évidemment, en poursuivant cette dispute. Sarah Hélermeyer, alors, pour rentrer dans le vif du sujet après cette belle description.
Oui, bah, comme le disait Corinne, l'accent est mis dans cette exposition parce que finalement, Léonard a peu réalisé de peintures. Hein. Il y en a 10 qui sont réunis sur 15 ou 17.
Il y en a 11 sur 20.
Il y en a 11, c'est-à-dire avec la Joconde dans les collections permanentes. Il y en a
11 sur 20 attribués.
Voilà, exactement. Donc, et contrairement d'ailleurs à l'idée reçue qui serait que Léonard a peu produit d'œuvres parce qu'il s'intéresserait plus à la conception qu'à la réalisation, qu'à l'exécution, ce que montre cette exposition, c'est qu'au contraire, il concevait très vite ses œuvres, la composition, mais que c'était tout le moment d'exécution qui comptait le plus pour lui, sur lequel il revenait indéfiniment, de manière expérimentale, pour trouver justement, pour revenir sur la composition. Et donc, comme le disait Corinne, les dessins sont très nombreux. Et ce qu'on voit dans ces dessins, en passant de la première salle, donc qui est consacrée au drapé, avec toutes les études sur l'ombre et la lumière, c'est à ce moment où il conçoit la forme qui est créée que justement par des jeux d'ombre et de lumière. Et puis il intègre les années passant, assez rapidement en fait, dès les années de la fin des années 1470, la recherche du mouvement. Et c'est ce qui l'amène en fait à se libérer d'une recherche de la forme parfaite, parfaitement délimitée, close sur elle-même, au profit de ce qu'il appelle justement, comme le disait Corinne, la composition inculte, qui en fait consiste à revenir indéfiniment sur les contours, sur les positions, quitte à exagérer aussi le dynamisme des poses et à même déformer parfois les anatomies. Et puis parfois ça a conduit même, mais toujours avec une immense liberté, une très grande, beaucoup d'énergie, une très grande précision, c'est assez fascinant. Et c'est... ce qui l'amène parfois même à ce que ses dessins soient complètement par endroits noirs, recouverts de... Enfin, il n'y a plus d'espace tellement blanc. C'est ce qu'on voit par exemple avec les études pour la Madone au chat, qui sont extrêmement belles, où on voit... En plus, le sujet n'est pas pour me déplaire, avec ces petits chats qu'on voit dans différentes positions et qui finit... La page finit par être complètement grivouillée. Et c'est ce qui faisait dire...
Des formats, très souvent... tout petit, vraiment minuscule. Oui. Pour moi, il faut mettre les lunettes, hein, parce que vraiment, pour pouvoir savourer, et encore les détails, on parlera des codex après, enfin, quand on voit, il y a une précision dans la miniature qui est complètement saisissante.
Mais justement, disons que, enfin, ce qu'il faut voir aussi, c'est que cette méthode, à l'époque, elle est plutôt inédite et voire révolutionnaire, et c'est ce qui faisait dire d'ailleurs, donc ils reviennent beaucoup là-dessus les commissaires, mais à Giorgio Vasari qui a écrit La vie des plus excellents peintres, sculpteurs et architectes en 1550, que Léonard était le premier peintre de la manière moderne, c'est-à-dire dans le sens où il s'attacherait plus seulement à retranscrire les apparences extérieures, mais la vie intérieure des phénomènes et des individus. Des
vivants. Bon, il y a une réédition d'ailleurs, je donnerai pas mal de publications forcément avec cette exposition, Vasari fait partie de ces belles rééditions. Sally Bonne, votre regard sur cette exposition de Léonard de Vinci au Louvre.
Oui, c'est la modernité de Léonard de Vinci qui apparaît à travers l'accompagnement de ces tableaux qui sont réunis pour la première fois et qui sont entourés en fait de tout ce travail de dessin qui est aussi un travail de recherche et qui est absolument prodigieux à la fois en termes de quantité, mais aussi en termes de volonté qu'a manifestement Léonard d'atteindre à quelque chose qui serait une forme de perception sensible très particulière. Et effectivement, comme l'a dit Corinne, la première salle est absolument prodigieuse, les drapés sont extraordinaires, d'autant plus qu'il travaille sur une forme de très très grande précision et de justesse du trait, qui va ensuite se lâcher, il y a une sorte de souplesse dès les salles suivantes, qui sont nommées, ça s'appelle Vers la liberté ou La liberté. La liberté. Une souplesse du geste, et on voit très bien que le geste de Léonard se reprend, se superpose, il y a une discontinuité du trait par rapport à cette presque fixité d'ailleurs, et les drapés ont quelque chose d'un peu abstrait, c'est-à-dire qu'en fait il travaille le drapé comme si c'était une chose complètement déconnectée en fait de du personnage, et c'est quelque chose qui est très intéressant dans le parcours, parce qu'en fait on retrouve à la fin ce travail du drapé, notamment dans la Sainte Anne, et dans la Sainte Anne, mais aussi dans le carton en fait de la Sainte Anne, qui est absolument une merveille absolue, parce qu'on voit effectivement il y a toutes ces réflectographies qui permettent de voir le travail de dessin, de reprise, de recherche qui est totalement magnifié dans la salle de sur la science, ou les carnets, où là on voit, c'est prodigieux. Mais dans la Sainte Anne et dans le carton de la Sainte Anne, c'est une autre version en fait que le tableau, et on voit le visage de la Sainte Anne qui se tourne vers Marie, qui la regarde, et on a l'impression que le visage de Sainte Anne troue la représentation tellement il est puissant, et il y a quelque chose d'une sensualité qui est vraiment incroyable dans ce carton, qu'on ne retrouve pas en fait dans le tableau, et le carton est presque plus beau que le tableau d'ailleurs.
Là, il y a les esquisses aussi concernant Sainte-Anne. Alors moi qui étais biberonné au freudisme, quand je vois que le drapé n'est pas du tout un signe dans les esquisses un signe, je vais y arriver.
C'est un Milan.
Oui, certes, mais... Signe, ça parle peut-être davantage. Le Milan n'est pas du tout présent dans le dessin de Léonard. Corinne Rondeau, vous réagissiez sur...
Sur les drapés, je trouve que c'est indépendamment du fait qu'on ne peut pas regarder tous les il n'y a pas tous les tableaux, donc on ne peut pas faire de rapport comparatif à chaque fois. C'est vrai que c'est une exposition extraordinaire sur la question du dessin, c'est-à-dire qu'à une époque où la ligne, c'est le design ou le dessin, c'est-à-dire la pensée, enfin l'idée, je veux dire, d'un coup il fait éclater les codes finalement et les conventions humanistes de la Renaissance. Donc effectivement, ce travail tourbillonnant où il fait bouger sans arrêt les figures sont absolument... Enfin, c'est magnifique de voir le mouvement sur le dessin. Et puis c'est surtout voilà, cette salle de drapé, moi, qui m'a mis deux claques, et puis m'a tapoté devant, derrière la tête, parce que c'est vraiment prodigieux. Je rappelle que quand même, le Louvre est allé jusqu'à à exposer le travail d'une jeune artiste qui travaille beaucoup sur la conception, justement, de Léonard. C'est-à-dire, il fait à échelle 1, il fait un modelage de Jean, et puis avec un drapé qui a été imbibé d'argile, il va ensuite travailler avec ce sorte de moulage, entre guillemets, évidemment, il va retravailler. Et ce qui est admirable, c'est à quel point, avec cet exemple-là qui est dans l'exposition, on peut voir la manière dont, en fait, Léonard voit, la manière dont la lumière fait vivre l'ombre, mais en même temps il fait voir que l'ombre est lumière aussi. Et il y a quelque chose de prodigieux dans l'exposition, parce que j'ai passé un temps fou à regarder des livres, parce que Léonard, c'est vraiment, vous savez, il y a toujours un revers chez Léonard. Il y a d'autres peintres qui font un revers. Hein, par exemple, le manteau de la Vierge a un revers. Enfin, beaucoup ont des revers sur leur manteau. Il a une manière de placer le revers qui est admirable et qui s'inscrit peu à peu. Vous avez du pli au début, du pli. Puis, en fait, il va faire apparaître la doublure. Mais la manière dont il a de peindre cette doublure n'est pas un rapport colorique. C'est une manière de faire venir le dedans dehors. Et ce rapport entre l'ombre et la lumière, qui est une manière de dire l'ombre et lumière, c'est pareil que le dedans et dehors. Et donc, il est attiré par ce dehors, il y a ce dedans qui se déverse. Et avec la Sainte Anne, il n'y a plus de revers. Et quand on regarde la Sainte Anne, où la Vierge est assise sur sa mère Sainte Anne, avec cet enfant qu'elle était en train d'apprendre, c'est une figure, c'est triptyque quasi, enfin une trois. Et il y a un mouvement comme ça, du pli à la doublure, et ce rapport du dedans au dehors. Et quand vous êtes sur le Saint-Jean-Baptiste, vous savez, ouais. Léonard, c'est quoi? C'est un sourire et le doigt levé. Le Saint-Jean-Baptiste, il est en train de vous dire, il y a quelque chose hors du cadre. Et ce qui, alors vous pouvez dire c'est Dieu, etc. Mais c'est vraiment la question de la création, quoi. La création, c'est vraiment la question de l'absence. Il y a toujours quelque chose ailleurs. Et donc il y a ce rapport de dédoublement qui est admirable dans les étoffes et les drapés.
Sarah, Sally, allez,
oui,
Sally.
Non, parce que pour poursuivre, parce que cette question du drapé, on la trouve aussi dans la Vierge au Rocher, et notamment le manteau de la Vierge, où effectivement la doublure ou la robe, où il y a quelque chose, un élément comme ça qui apparaît, qui est presque sculptural à l'intérieur, en fait, de son grand manteau. Et absolument magnifique aussi, qui renvoie en plus aux rochers qui sont au fond du tableau. Et dans cette Vierge au Rocher aussi, il y a quelque chose de magnifique, parce que ce qui se passe avec Léonard, c'est que il vient inscrire ses figures, et notamment la Vierge au Rocher, la série des Vierges à l'enfant, et la Sainte Anne aussi.
Qui vient de l'Ermitage, Vierge à l'enfant, ça c'est aussi exceptionnel.
Oui, dans un environnement qui n'est plus celui de la perspective albertienne, qui n'est plus le damier qui va cadrer en fait la figure, et en fait elle est dans un paysage qui n'est plus un paysage codifié, mais qui est un paysage sensible en fait. Et ça aussi, c'est dans cette Vierge au Rocher, c'est absolument magnifique.
Sarah Hillermeyer, encore quelques mots sur Léonard de Vinci au Louvre.
Oui, alors peut-être juste par rapport au drapé, parce que je suis complètement Sally et Corinne, peut-être un dernier mot là-dessus, c'est que chez lui, ce qu'on voit, c'est que les drapés aussi ne sont plus des ornements du corps, mais partie vraiment à la dramaturgie en fait de la composition, dans le sens où en tout cas ça pourrait, si on suit le mouvement, comme le dit Corinne, des drapés et des personnages, c'est comme si ça traduisait une forme d'intensité psychique ou émotionnelle des personnages. Après, moi, ce que j'ai particulièrement aussi aimé dans cette exposition, c'est que je trouve qu'elle donne à voir différemment le sfumato, cette technique dont on parle systématiquement pour définir le travail de Léonard, et qui consiste donc à estomper les contours de manière à ce qu'ils soient vaporeux. Eh bien, disons que dans le cadre de cette exposition, on comprend qu'en fait ça correspond à l'ambition de Léonard de retranscrire la vie dans sa dimension mobile, dans son devenir, et pas comme quelque chose de figé. Puisqu'effectivement, le sfumato donne une qualité vibratoire à la matière, comme si les personnages étaient quelque part en vie, en train de bouger légèrement. C'est d'ailleurs ce que dit un des commissaires, qu'il a toujours cette impression-là quand ils sortent la Joconde de son coffre. C'est qu'il y a presque une impression surnaturelle, comme ça le personnage est en vie. Et puis par ailleurs, le sfumato, il annule donc les limites entre les formes, comme si elles étaient traversées et reliées entre eux par une sorte d'énergie de la nature. C'est ce qu'on voit justement avec la Sainte Anne, dont les trois personnages, la Vierge Marie, Sainte Anne et le petit Jésus, sont dans des positions désaxées les uns par rapport aux autres, ce qui crée un mouvement donc justement circulaire de la droite vers la gauche, et comme si une onde donc parcourait leur corps. Dans un mouvement qui est ça fait un effet donc de mouvement et de continuité qui est renforcé par le sfumato. Et c'est comme si les formes, je termine juste là-dessus, passaient les unes dans les autres. Et sur ce point-là, il y a quelque chose qui a été dit par l'historien Patrick Boucheron qui est assez intéressante, c'est-à-dire qu'on fait de Léonard, Léonard est évidemment une figure de la Renaissance, mais quelque part il s'inscrit dans la pensée médiévale pour laquelle il n'y a pas de distinction entre le monde naturel et le monde des hommes. C'est-à-dire que tout est relié, tout est en correspondance, comme dans la pensée analogique qu'on trouve dans le monde médiéval.
Oui, ce qu'on peut voir aussi dans Saint-Jérôme et le Pénitent, qui est quand même tout à fait terrifiant comme tableau. J'avais dû le voir au Vatican, et bien évidemment la Pinacothèque du Vatican. Mais là, dans l'ensemble de l'exposition, je l'ai vu différemment. Il est quand même très impressionnant aussi, très différent, parce qu'on est quand même au début des Léonards, avec ce rapport entre Saint-Jérôme et ce lion. Je confonds toujours les lions et les tigres, mais c'est un lion pour Saint-Jérôme. Vous vouliez dire, pardon, Corinne Rondeau, pour vraiment conclure maintenant.
Oui, non, je suis cette question de la limite. Moi, je trouve qu'effectivement, il a appris le caractère inachevé techniquement avec les Pollaiuolo, puisqu'il apprend chez Verrocchio les deux ateliers. Techniquement, il est proche des Pollaiuolo et il est formellement proche du Verrocchio. Mais c'est vrai que quand on parle de la question androgyne, par exemple, c'est l'apothéose étant le Saint Jean-Baptiste, il y a quelque chose qui ne doit pas faire de la psychologie à deux balles, parce qu'on en a ras-le-bol, là, quand on nous parle de Léonard là-dessus, c'est vraiment la manière dont il est à la limite de la limite. Et le rapport du dedans et du dehors, comme de l'ombre et de la lumière, correspond exactement à ce travail du sfumato, c'est-à-dire le rapprochement aussi du premier plan et du dernier plan. Et que tout traverse sans avoir à faire une perspective linéaire, mais au contraire atmosphérique, c'est-à-dire comment la question de la transparence, mais aussi du sfumato, consiste à opérer le modelé même des figures jusqu'à leur dispersion dans l'arrière-plan.
Bon, il y aurait évidemment encore beaucoup à dire, cette exposition Léonard de Vinci.
Moi, je vais écrire une thèse, je crois. Je suis passée par le Saint-Jean-Baptiste.
Ouais, Saint-Jean-Baptiste. C'est jusqu'au 24 février au Louvre. Je crois que les premières places, là, si on va sur Internet, c'est en décembre, je crois, parce que l'exposition est victime de son succès. Beaucoup de publications qui accompagnent évidemment cette exposition. C'est donc quand même celle du Louvre, à commencer par le catalogue coédité avec Azan, la réédition de Vie de Léonard de Vinci de Vasari, une nouvelle traduction de Louis Franck qui édite et qui commente cette publication. Louis Franck est l'un des deux commissaires donc. Il y a même Léonard en bande dessinée, Stéphane Levallois, c'est une coédition Louvre Futuropolis. Il y a une nouvelle publication des épais carnets de Léonard en quarto chez Gallimard. C'est la vieille édition avec la belle préface de Paul Valéry. Et puis aussi la monumentale, à tout point de vue, monographie de Martin Kemp chez Citadel et Masno. Là, c'est iconographie très riche aussi en format XXL pour bien rentrer dans les détails. Et vous avez une autre publication
non, j'ai peut-être pas tout entendu, alors je n'ose pas.
Bon, il y a de quoi faire. On va parler ensuite de Kiki Smith et d'Hugo Randinon et de l'exposition du plateau.
France Culture, La Dispute, Arnaud Laporte.
Nous poursuivons cette dispute avec l'exposition Kiki Smith à la Monnaie de Paris. L'artiste américaine au féminisme très revendiqué bénéficie enfin d'une grande exposition en France. Pas moins d'une centaine d'œuvres sont présentées, datées de 1980 à aujourd'hui, pour proposer une vaste rétrospective. Elle est surtout connue pour son œuvre sculptée. Mais là, on peut voir la diversité de sa pratique, qui explore notamment le corps féminin et la symbiose avec la nature. Symbiose souvent inquiétante ou amusante, ça dépend. Premier sentiment sur cette exposition de la Monnaie de Paris, Sarah Ellermeyer.
C'est une exposition qui est plutôt bien conçue pour une artiste dont le travail se tient, mais j'avoue ne pas beaucoup apprécier son œuvre.
Sally Bonne.
Kiki Smith ou les métamorphoses panthéistes de l'art.
Elle est contente, elle a bien préparé son émission et son tour de chauffe. Corinne Rondeau.
Une exposition très sobre pour une artiste qui est restée jusqu'à peu une énigme.
Ah, donc l'énigme est levée. On va écouter Kiki Smith, qui était l'invité de la Grande Table sur France Culture le 18 octobre dernier.
Your body's in motion.
I'm also a believer in art.
Oui, je crois aussi en l'art.
Creativity. You know, I would say like humans have creativity.
Votre créativité, vous savez, les humains ont une créativité ainsi qu'une inclination pour la technologie. Il y a ça chez tous les êtres humains. L'art. C'est une façon de synthétiser son moi intérieur et des manifestations physiques sur lesquelles ensuite on peut réfléchir et avec lesquelles on peut expérimenter, avec lesquelles on se frotte. C'est aussi avoir une relation avec la matière physique du monde et ce en temps réel. Donc ça devient des sortes de preuves, des preuves éphémères.
Smith, on a eu peur. Hein. À la Monnaie de Paris, les commissaires de l'exposition sont Camille Morino et Lucia Pesapane, avec la collaboration de Marie Chenel. Bon, Sarah, un petit parcours de l'exposition avec vous cette fois.
Oui, alors bon, l'exposition est assez grande puisqu'elle occupe tout le rez-de-chaussée, et, pardon, l'étage et le rez-de-chaussée aussi de la Monnaie de Paris. Donc les commissaires ont fait le choix d'un parcours qui n'est pas chronologique, qui n'est pas non plus thématique. Donc ils s'organisent, si on les croit, en fonction de deux pôles, que serait le chaud et le froid.
Si on les croit, on a noté.
Le simple et le sophistiqué. Bah, c'est-à-dire que j'ai pas bien compris, moi, où était le chaud et le froid, le simple et le sophistiqué. En tout cas, ce qui est sûr, c'est l'ensemble de sa carrière est balayé, puisque toutes les périodes sont représentées, des années 80 à aujourd'hui. Toutes les techniques aussi qu'elle utilise, nombreuses, le bronze, le verre, la cire, le plâtre, la tapisserie, le dessin. Et puis, on est accueilli tout d'abord dans l'escalier, au-dessus de notre tête, par un grand mobile, hein, qui est en fait l'agrandissement en bronze d'une broche qui appartient à l'artiste et qui représente une constellation d'étoiles et de soleil. Et puis, on entre dans une première grande salle où se trouvent au sol trois femmes enfants couchées en bronze qui ressemblent, je dirais, selon le point de vue, à des troncs d'arbres sur lesquels sont posés des petits moutons, assez mignons d'ailleurs. Et puis, elles sont entourées de
chats,
de vitrines.
Les moutons, on note, hein, salut. Sarah, pardon.
Il y a des vitrines qui les entourent et dans lesquelles on peut trouver d'un côté, par exemple, des fragments de corps, des organes en verre soufflé et en papier mâché. Et puis de l'autre, une série de petites porcelaines qui représentent des associations de femmes et d'animaux qui semblent batifoler dans la nature. Et donc voilà, donc là il y a une forme de triangulation, donc j'en parle parce que ça organise l'exposition. J'irai d'un côté entre une très grande douceur avec des figures féminines aux formes enfantines, lisses et arrondies. De l'autre, une forme de brutalité avec des sculptures qui représentent le corps humain dans ce qu'il a de plus matériel, organique. Et puis le troisième pôle, ça serait la vision cosmique, holistique du monde, selon laquelle donc tous les éléments sont reliés entre eux. Et c'est cette triangulation qui organise le parcours en nous faisant ensuite passer de salle en salle, par exemple du côté d'un écorché qui représente l'artiste, ou d'une petite fille à genoux qui a les paumes levées vers le ciel et qui est entourée d'étoiles, ou encore d'une autre sculpture qui montre Kiki Smith qui sort d'un loup. Et puis ça se conclut par des cyanotypes, c'est une ancienne technique photographique, et qui sont en l'occurrence la capture sur fond bleu de constellations stellaires. Donc en tout cas, cette exposition, même si le parcours est un peu difficile à décrire, je pense qu'il permet de voir comment Kiki Smith a néanmoins cheminé de la représentation du corps fragmentaire au lien, à l'exploration des liens qui le lie au monde naturel et au monde animal.
Pour autant, cette exposition et le travail d'artiste vous a-t-il convaincu? Première réponse avec Sally Bonne.
La question un peu difficile.
Bah, vous êtes là pour ça, vous savez.
Oui,
c'est le principe de l'émission, en fait.
Il faut qu'on se parle, Sally. J'étais aussi j'ai resté sur, effectivement, c'est Corinne qui a évoqué l'énigme que pourrait représenter l'œuvre de Kiki Smith. J'étais restée sur l'énigme. Je suis pas sûre d'en être sortie encore non plus. Par contre, indéniablement, l'exposition propose cette promenade, cette déambulation à travers l'ensemble des préoccupations stylistique, des alternances aussi à travers l'histoire de l'art et la religion et son propre travail de l'œuvre de Kiki Smith, qui est en fait une œuvre de collage, d'assemblage d'éléments qui sont empruntés au conte, à l'histoire de l'art, à l'iconologie religieuse, à l'humain, à l'animal, à l'enfantin et au sexuel, à la nature, au cosmos, avec des techniques aussi, elle reprend des techniques dites artisanales, dites féminines aussi, donc elle joue sur quand même un ensemble de à la fois de motifs,
le spectre
est très large. Et on est un peu perdu en fait dans cette déambulation. Les œuvres sculpturales étaient peut-être les plus connues. Il m'a semblé que les dessins étaient quand même d'une qualité. Enfin, il y a beaucoup de dessins qui sont très beaux. Et dans cette entrée un peu à la fois majestueuse dans la grande salle, le salon Dupré de la Monnaie de Paris, avec Sarah l'a bien décrit, ces jeunes filles et ces moutons très bucoliques, hein, et qui d'ailleurs sont censés être installés dans des prés. Il y a quelque chose d'assez doux qui vient contraster régulièrement avec effectivement l'intériorité. Donc il y a aussi un jeu, c'est-à-dire on est perdu parce qu'il y a un jeu de renversement permanent. C'est-à-dire qu'elle joue sur la question du dedans, du dehors, de l'intériorité du corps et de son extériorité, et
Et il est assez difficile de se situer dans, dans ce jeu de renversement, qui est par contre très bien illustré par une de ses œuvres, qui est une sorte de Christ renversé féminin, qui est une sculpture en papier mâché où le corps est complètement renversé, les jambes sont des jambes qui ont été moulées sur un corps masculin, le haut du corps est moulé sur le corps de Kiki Smith elle-même, et il y a des longs cheveux qui pendent, qui sont en fait empruntés, c'est une crinière de cheval, je crois. Et cette figure là, elle est emblématique en fait de tout ce travail de renversement qui est à l'œuvre dans l'ensemble du travail de Kiki Smith.
Corinne Rondeau, l'énigme est levée alors ?
Oui, il est levé grâce à un texte du catalogue, je dois dire, qui m'a permis de revoir ce trajet-là, en fait. C'est celui de Sophie Delpeux, qui est le seul intéressant du catalogue, je le précise.
Les autres
sont empêtrés dans le féminisme à outrance avec des binarités qui sont assez pénibles.
Sophie Delpeux, on en a déjà parlé ici.
Et Sophie Delpeux, oui, qui a écrit ce texte tout à fait remarquable parce que justement, elle est à l'endroit où se trouve le travail. Donc, on peut pas demander autre chose
demander
à quelqu'un
mieux.
Qui regarde un travail de parler du travail. Mmh. Et effectivement, moi, j'étais rentrée dans la salle en fait en regardant parce que c'est la fille de Tony Smith. C'est-à-dire du minimalisme, de la sculpture quand même, qui est raide, monumentale en général. Et là, on travaille avec échelle 1 ou des toutes petites formes. Et c'est quelqu'un qui dit qu'elle est besogneuse. C'est dans le texte aussi de Sophie Delpeux. C'est-à-dire quelqu'un qui est du côté de l'activité manuelle. C'est quelqu'un dont l'atelier est la maison. Et ça, c'est très important puisqu'en fait, elle est dans un réseau, comme Sally vient de l'évoquer. C'est-à-dire, il y a un réseau historique, il y a un réseau formel, il y a un réseau de matériaux, il y a un réseau de sources, il y a un réseau d'outils. Elle est toujours entre quelque chose et quelque chose d'autre, à la fois du quotidien et une activité quotidienne artistique. Et en même temps, est-ce qu'elle fait de l'art ? La question est vraiment de se poser. Comme son père était sur cette route, on se rappelle de cette phrase, il était sur une route la nuit et cette autoroute lui apparaît comme une œuvre d'art, et c'était pas de l'art et en soi, mais ça avait un effet artistique. Et en fait, je me demande si sa fille ne fait pas ça, en gros. Ouais. C'est-à-dire qu'effectivement, elle ne cherche pas à faire ni du prestige artistique. Et en lisant le travail, vraiment sur le travail, la fabrication, d'où elle travaille, vers quoi elle va, la manière dont elle entrelace des pratiques, des histoires, des niveaux, sans faire de la théorie ni de leçons, comme le démontre Sophie Delpeux dans son travail, c'est une manière quand même de dire que son travail, c'est ce que je comprenais pas, c'était ça l'énigme. C'est-à-dire que cette femme, elle est inassignable. On comprend rien, ou alors on comprend une sorte de... Elle a bloqué sur un acide à l'âge en 1970, ou alors elle est complètement barrée. Or, quand on la voit au travail sur sa table en plastique, et ses gens, ses assistants, ou les gens qui traversent, et qui la traversent, où elle est tout le temps en train d'apprendre, comme le dit encore Sophie Delpeux, c'est quand même une manière de dire « Je suis pas assimilable, mon travail n'est pas socialement représentatif, mon travail est sans distraction, et d'une certaine manière, c'est vraiment la liberté de l'artiste. La liberté qui consiste à dire, ma liaison, elle est organique entre mon travail et mon lieu de vie.
Sarah Hellermeyer sur Kiki Smith et la Monnaie de Paris.
Oui, je suis d'accord avec Corinne pour dire qu'il y a une grande liberté chez Kiki Smith. Après, je trouve pas que son travail soit inassignable. En fait, il y a quelque chose de très situé, justement, et peut-être même un peu daté. Alors, je reviens sur le fait que j'aime pas beaucoup son travail, plastiquement, parce que je trouve ça généralement un peu trop réaliste ou trop symbolique. Et du point de vue de leur contenu, justement, il me pose un problème, parce que c'est ça qui est particulièrement situé. Ça, ce que j'entends par là, c'est qu'en fait, généralement, elle relève d'une forme de féminisme que je qualifierais un peu de première génération, New Age. Et qu'est-ce que j'entends par là ? C'est-à-dire que la plupart du temps, il y a de la femme, pardon, je m'explique.
Dans les œuvres, vous expliquez vous-même.
Il y a souvent des femmes qui sont représentées dans l'œuvre de Kiki Smith, mais la femme n'est jamais abordée comme en fait une construction sociale qui varierait selon les époques et les cultures, mais comme une sorte d'entité naturelle, un invariant qui traverse comme ça
comme
les âges.
Animaux, hein.
Voilà, qui est relié au monde naturel, au monde animal.
La symbiose.
Voilà. Donc l'enjeu, oui, mais l'enjeu de son féminisme, qui est justement d'un peu de première génération, c'est d'inverser l'ordre de valeur en considérant que ce lien de la femme à la nature, au monde animal, il n'est pas quelque chose de négatif, mais quelque chose de positif. Mmh. Pourquoi ? Parce que chez elle, ça s'inscrit dans une vision cosmique du monde, comme je disais, pour laquelle tout est relié, et la femme serait en quelque sorte l'incarnation de cette union du vivant. Elle serait une sorte de Gaïa ou de femme sacrée. Mmh. Et c'est ce qu'on retrouve. En fait, on peut lire la plupart de ses œuvres de cette façon-là, notamment une œuvre qui montre une femme qui est pliée sur elle-même, debout, donc qui nous montre en quelque sorte son entrejambe, et puis autour, elle est entourée de de perles qui pourraient évoquer soit des sécrétions naturelles, peut-être des règles, je ne sais pas, ou une constellation stellaire. Voilà, donc vous voyez, c'est ce type de lien. Après, pareil pour la petite fille à genoux qui a les paumes levées vers le ciel et entourée d'étoiles. Donc c'est toujours ce lien comme ça, moi je trouve extrêmement désuet, très situé en fait comme féminisme. Et ça donne lieu à des formes, en l'occurrence, qui me déplaisent, que je trouve à la limite du kitsch et pour ne pas dire la place des Vosges. Voilà.
Ouais, mais il y a un mystère quand même qui se misque, enfin qui, alors pour le coup, demeure pour moi. Je pense que vous lui prêtez beaucoup, mais peut-être que parce que je n'écoute pas ses interviews assez ou que je ne lis pas ce qu'elle peut dire, Kiki Smith. Mais pour moi, c'est une femme parmi les femmes. Enfin, les femmes qu'elle montre, c'est pas la femme, c'est pas la femme sacrée ou la femme panthéiste. C'est une femme, celle qui sort d'un loup, celle qui a affaire à une biche. Enfin, ça peut reprendre des figures mythologiques aussi très simplement. Mais moi, ce qui me pose question aussi, c'est que on a eu l'occasion, quand on parcourt un peu les expositions, de voir régulièrement des œuvres de Kiki Smith dans des expositions collectives. Alors, c'était un peu une fois sur deux, je trouvais ça formidable, ou au contraire complètement à côté de la plaque, complètement raté. Pour moi, le mystère, il était là. Et je pense que c'est un peu méchant ce que je veux dire, mais c'est pas un service à lui rendre que de lui faire une exposition monographique, parce que du coup, on voit comme cette œuvre, elle est quand même extrêmement bancale, et des fois ça marche, des fois ça marche pas. Corinne Rondeau, parce qu'on est déjà très en retard.
Je suis d'accord avec vous, parce que moi non plus, comme ça, je n'aime pas du tout le travail de Kiki
Smith. Mais des fois ça marche.
Mais bien sûr que parfois ça marche, mais je trouve que c'est quand même lui faire un procès mal intentionné que de vouloir l'arranger à un endroit.
Là, c'est vous qui l'a signé, j'ai l'impression.
Alors, il y a des endroits.
D'accord, moi je pense que vraiment son travail relève d'un féminisme daté, vraiment.
Il y a des choses qui sont...
Demandait des féministes.
Elle est des années 60.
C'est situé.
Est-ce que je peux finir?
Mais je vous en prie, allez-y Corinne.
C'est juste une manière de dire qu'elle est effectivement, elle a un regard à cet endroit-là. Mais vouloir la ramener aux années 70 impérativement, je pense que c'est un peu dommageable, d'autant qu'elle est sur la tendance catholique, sur la tendance...
Tout à fait New Age, tout à fait années 60.
D'accord, bon, écoutez, si vous voulez lui mettre une étiquette, c'est super. La seule chose que je voulais dire, c'est qu'elle va de la vie à l'art, et elle est à l'antithèse du happening ou de ce qu'il faisait dans la performance des années 60-70, à savoir l'art vers la vie. Et c'est là que je trouve que moi, j'ai compris ce qu'elle faisait en termes de pratique, parce que c'est la lecture que m'a donné justement ce vrai travail sur l'écriture sur son travail, et qui justement m'a mis à distance de ces formes qui sont assez insupportables en soi pour moi. Je trouve que le déséquilibre que vous nommiez, Arnaud, est tout à fait juste, mais non seulement juste, mais en plus ça justifie son travail.
Ça les bonnes pour conclure.
Pour conclure, juste il y a une sculpture qui me semble, une pièce qui me semble assez intéressante et qui à la fois résout et pose un certain nombre de problèmes. C'est une sorcière qui est sur un bûcher, en fait, qui est en haut d'un bûcher de morceaux de bois, et qui est les bras ouverts et qui représente la sorcière. Donc en fait, dans cette question de la représentation féminine ou féministe, il me semble que dans cette installation là se joue aussi autre chose, parce qu'au fond ce bûcher là il est évidemment le bûcher de l'histoire des sorcières, mais il est aussi un socle, et en fait elle réinterroge même comment une sculpture peut s'installer sur un socle. Et le bûcher, c'est plus seulement le bûcher des sorcières, c'est aussi le socle de l'histoire de la sculpture. Alors, on peut la ramener à l'histoire du minimalisme, mais il y a effectivement quelque chose de cet ordre-là aussi. Donc, elle me semble pas totalement enfermée dans une histoire féministe datée, parce qu'il y a aussi autre chose qui se joue dans son travail.
Allez voir par vous-même, faites-vous votre avis en allant à la Monnaie de Paris voir l'exposition Kiki Smith, c'est jusqu'au 2 février. C'est l'heure du coup de cœur de Sarah Hilaire-Meyer pour une exposition dont elle va d'abord nous expliquer le titre, j'imagine. Foncteur d'oubli, c'est au plateau Île-de-France. Sarah.
Oui, Foncteur d'oubli, c'est vrai que c'est un titre un peu bizarre qui sonne comme un titre de rap, mais ça désigne en fait une opération mathématique qui consiste à déplacer des objets d'une catégorie vers une autre en oubliant certaines de leurs propriétés. Et de fait, c'est ce que produit cette exposition qui est conçue par l'artiste Benoît Maire et qui réunit pour l'occasion des objets, des sculptures et des maquettes réalisées par une trentaine d'artistes, designers et architectes. C'est tous ces objets, ces œuvres, elles sont placées plus ou moins sur le même plan, les unes à côté des autres, sans que l'on puisse a priori déterminer s'il s'agit d'œuvres d'art, de design ou d'architecture. Donc on voit par exemple une table en plastique dont le traitement donne à penser qu'il s'agit de verre ou de glace, qui a été réalisé par le designer Théophile Blandet et qui dit vouloir traiter le plastique comme un nouvel ivoire, c'est-à-dire comme une matière qui est vouée à disparaître. Et puis autour de cette table, parmi des chaises dans le même matériau et réalisées par le même artiste, on trouve une chaise tubulaire en acier dont les assises en tissu sont complètement affaissées, relâchées puisqu'elles sont recouvertes de silicone et de fleurs, comme si cette chaise était le témoin de présence et d'humeur passée. Et cette chaise, elle n'est pas réalisée par un designer, mais par l'artiste Mélanie Matranga. Donc ce qu'il y a d'intéressant, je trouve, d'assez vertigineux en fait, dans ces rapprochements, dont on pourrait multiplier les exemples, c'est que ce qu'il brouille nos classifications habituelles en faisant glisser des objets d'une catégorie vers une autre, du fait de leur rapprochement justement, mais aussi de leur emplacement dans un centre d'art qui suspend de fait la fonction des objets de design. Donc on a certains reproches à cette exposition d'être bourgeoise dans le sens où elle mettrait sur le même plan des œuvres d'art et des objets en rabattant en fait les premières sur les secondes, c'est-à-dire en faisant des œuvres d'art des objets décoratifs. Mais il me semble que ce qui se joue dans cette exposition est beaucoup plus fin. Puisque la passerelle qui est créée entre les disciplines, elle n'est pas de nature décorative, mais elle est, je dirais, j'ose dire, de nature plutôt existentielle. Dans la mesure où ce que l'on voit dans les objets design, aussi bien que dans les œuvres d'art, c'est toujours finalement l'incarnation, la production de rapport au monde. Donc, c'est-à-dire que les objets de design et les œuvres d'art sont, d'un côté comme de l'autre, à travers ou en dehors de la fonction, des concepts sensibles ou des pensées incarnées qui nous font penser et réfléchir le monde. Et le vertige que produit cette exposition, il se retrouve parfaitement dans un film de Nicolas Boone, Étage 39, dont un extrait est présenté dans le parcours de l'exposition. On y voit des individus qui vont et viennent sur des fonds d'images mouvants, c'est des paysages indéterminés, filmés au drone, et ils se demandent ce qu'ils font là, ils raisonnent, ils cherchent à établir des liens, à trouver une logique qui ne vient jamais, un peu finalement comme ces objets que l'on trouve dans l'exposition et qui sont réunis en définitive peut-être par une même quête existentielle.
Foncteur d'oubli, c'est au plateau, Frac Île-de-France, jusqu'au 8 décembre.
France Culture. La dispute. Arnaud Laporte.
La dernière exposition à notre sommaire, c'est Hugo Rondinone, et c'est en fait une triple exposition, trois espaces d'exposition de la galerie Kamel Menour à Paris, son titre initial, un mur, sept fenêtres, quatre personnes, trois arbres, quelques nuages, un soleil, a été augmenté par ces mots à la mémoire de John Giorno, l'amour de ma vie, Hugo. Le poète américain qui était le compagnon d'un artiste suisse est en effet mort quelques jours avant l'ouverture de cette exposition, on se souvient sans doute que Rondinone avait été en 2017 le commissaire de la grande exposition du Palais de Tokyo I Love John Giorno, dans lequel on retrouvait les deux amoureux. En hommage, on va écouter cet extrait d'une performance de John Giorno en 2015 à la Durham Art Gallery.
It doesn't get better. It doesn't get better. It doesn't get any better. It doesn't get any better than this. It doesn't get any more fabulous. And as bad as it is, it does not get any better.
Nous allons parler ce jour de l'ensemble de l'actualité de cette triple proposition au Gorondinon. Les premiers regards, Sally Bonne.
Mélancolie du sublime.
Corinne Rondeau.
Oui, beauté funeste.
Sarah Ellermeyer.
Une exposition simple et efficace à l'image des œuvres de l'artiste que je qualifierais de minimaliste romantique.
Sally, quelles œuvres, rapidement, pardon, parce que le temps nous presse, dans les trois espaces.
Alors, vous l'avez dit, le titre de l'exposition, c'est la description en fait des différentes pièces dans les trois espaces de la galerie Kamel Menour. Le titre est en fait comme un poème minimaliste, mais c'est aussi un repère topographique qui nous permet de nous déplacer dans les trois lieux de la galerie. Donc, si on suit le titre, on a tout d'abord Avenue Matignon, un tableau d'un mur en briques roses, un grand mur en fait qui est une huile sur toile de jute qui est intitulé 28 août 2019 tout simplement. Et puis à l'étage d'en dessous, on a sept fenêtres recouvertes sept fenêtres qui sont en fait des reproductions en fond d'aluminium d'une série de fenêtres. Chacune de ces sept fenêtres porte le titre d'un tableau de Caspar David Friedrich. Ensuite, si on passe dans la galerie de la rue du Pont de l'Audi, on a quatre sculptures quasi identiques, deux à l'entrée qui sont sur socle, qui sont en fait deux personnages en pierre. Qui sont et qu'on retrouve en bas de à peu près les mêmes, mais là bien plus grande, très très majestueuse. Donc c'est des pierres agencées, deux pierres verticales, une pierre horizontale pour faire un linteau, un bloc de pierre pour faire le corps, et deux pierres qui ont une forme de tête et qui font des personnages qui rappellent d'une certaine manière aussi les sculptures mégalithes de Stonehenge. Puis, donc ça c'est les quatre personnes du titre. Et puis pour finir, on rentre dans la galerie de la rue Saint-André-des-Arts et on a dès l'entrée trois arbres en terre séchée, qui sont des arbres décharnés. Six sculptures murales en cailloux et béton, qui sont des formes grossières et organiques, qui sont les fameux nuages. Et puis, pour terminer, un cercle en bronze doré qui représente le fameux soleil. Voilà, donc on suit en fait le parcours de ces objets-là qui ont une charge à la fois symbolique, historique, romantique, effectivement, très singulière et assez belle.
Corinne Rondeau, premier regard à vie.
Bah, toujours ravie, puisque je dois dire que Grandinon est sans doute l'artiste qui a toutes mes préférences, toutes mes attentions pour son rapport, je dirais pas seulement au romantisme, mais pour le paysage, mais aussi parce qu'il a toujours une manière d'immobiliser la fragilité. Et à l'intérieur de formes qui sont toujours mouvantes, le soleil, les êtres humains, les nuages, l'arbre aussi, mais ces arbres qui sont morts d'une certaine manière, c'est vraiment aussi figer quelque chose de cette beauté funeste et de manière aussi de dire on est plus longtemps mort que vivant. Mais c'est là, et cette fragilité qui est pas fossilisée, mais qui justement nous renvoie tout le temps à un questionnement, c'est-à-dire que Grandinon, c'est vraiment pour moi l'artiste culte, je dirais pour moi. C'est-à-dire, c'est celui qui vous rappelle sans arrêt l'absence de profondeur, les fausses profondeurs des images d'aujourd'hui, et qui vous convie à un certain mutisme, d'où ce primitivisme, par exemple, de Stonehenge qu'on croit voir, qui est pour moi la galerie la plus réussie.
Oui, parce qu'il y a de l'espace. Pour l'espace par rapport
qui est formidable, parce que Grandinon a besoin vraiment beaucoup d'espace pour montrer ses pièces. Il y a souvent un petit peu trop de pour la partie du soleil, des arbres et des nuages. Je trouve que la circulation est un peu étriquée, mais je veux dire, les œuvres sont là. Et puis Matignon, j'ai beaucoup aimé, par contre, le 29 août 2019, qui est tout attaché en allemand, hein, donc c'est pas facile à lire.
Oui, c'est pour ça que
ceux qui comprennent pas l'allemand et ceux qui voient pas que c'est plusieurs mots, bon, ils peuvent pas le lire, mais c'est cette manière qu'ils jouent avec la vitrine. Et Grandinon est toujours quelqu'un qui vous renvoie en fait à une opacité qui est la nôtre, qui est aussi retourner au silence et aussi apprendre à parler.
Sarah Hellermeyer, sur cette proposition Ugo Grandinon.
Oui, bah, je suis Corinne sur la question de l'opacité. Ce que j'apprécie particulièrement chez Ugo Grandinon, c'est ce qu'on voit, il me semble, dans ces trois expositions, c'est le fait qu'il propose à chaque fois, il me semble, des expériences d'idées à la fois simples et complexes, comme par exemple le fait qu'il n'y aurait pas d'essence derrière les apparences, mais que les apparences sont des présences qui font essence et qui se suffisent à elles-mêmes. Donc par exemple, le mur de briques peint sur une toile de jute, derrière laquelle il n'y a rien à voir, c'est-à-dire qu'on peut tourner autour de cette toile de jute, mais tout ce qu'on verra, c'est le châssis et qui permet de tenir cette toile, les fenêtres en fonte d'aluminium, qui sont en fait en quelque sorte des fenêtres closes, qui n'ouvrent sur aucun extérieur, aucun au-delà, et qui sont néanmoins en tant que telles des surfaces qui sont très séduisantes et qui nous happent et qui s'imposent par leur présence. Et cette idée de surface opaque qui dissimule aucun finalement au-delà, on la retrouve aussi avec les quatre sculptures dont a parlé Sally, qui sont composées donc de différentes pierres, de différentes tailles, qui ressemblent à des corps humains minimaux et autour desquels on peut tourner, mais qui ne délivrent finalement qu'un secret. Ils restent complètement muets, opaques, indéchiffrables. Donc, et puis, après, bon, je pourrais continuer, mais peut-être que je laisse...
La parole un peu à Sally, qui a décrit, mais qui n'a pas peut-être donné vraiment son sentiment.
Les figures, les arbres, les nuages, le soleil, les fenêtres, le mur se déploient à travers les espaces qui reconfigurent les espaces de la galerie qu'ils occupent et qui propose en fait des combinaisons ou des correspondances qui sont pas données d'emblée, mais qui pourtant existent. Et notamment ces fenêtres qui sont totalement opaques et qui n'ouvrent sur rien. Mais en fait, si, évidemment qu'elles ouvrent, et notamment si on sait quelles sont que les titres, c'est des tableaux de Friedrich. Et si les tableaux de Friedrich, ils sont donnés d'ailleurs. Hein, c'est Le Moine au bord de la mer, Paysage de montagne avec arc-en-ciel, Nuages en mouvement. Et donc en fait, on retrouve avec ces titres-là l'ensemble des œuvres de toute l'exposition. Donc il y a cette circulation qui est absolument passionnante parce qu'elle se fait, les œuvres sont extrêmement simples et en même temps est très étrange et très singulière et très seule aussi. Il y a une sorte de solitude de ces pièces-là, mais en même temps elles font une sorte de communauté romantique parce que les arbres ils viennent évidemment d'un tableau de Friedrich. C'est-à-dire qu'en fait il y a un des tableaux, c'est une chouette sur un arbre dépouillé, enfin c'est le titre d'une des fenêtres, mais les arbres décharnés, bah, c'est l'arbre dépouillé du tableau de Friedrich. Et donc il y a ce jeu de correspondance qui est absolument passionnant, parce qu'à un moment donné, quand on a vu les trois expos et qu'on a pris en fait chacun des éléments, on rentre dans cette histoire-là, donc de Stonehenge jusqu'à la peinture romantique, avec des objets qui sont très beaux dans leur simplicité. Et en même temps très singulier.
Oui, parce que ça donne vraiment des sensations très, très particulières d'être confronté à ces œuvres, et peut-être plus particulièrement là que d'autres expositions de Rondinone qu'on a pu voir. Il y a une sorte de... C'est à la fois mutique et lyrique en même temps. Enfin, il y a quand même quelque chose qui est une sorte de présence, qui n'est... Enfin, vous parlez de présence et d'essence, véritablement, ça... Ça nous déplacer, nous élever. On peut marcher un peu au-dessus du sol quand on est quand même en relation avec ces œuvres-là. Moi, j'ai senti ça très très puissamment. C'est un peu dit de façon simple et naïve, mais c'est vraiment une sensation assez difficilement communicable. Vous n'avez pas fini sur les œuvres à la Galerie Centrale des Arts, Sarah Ellermayer?
Non, c'était simplement de dire que finalement on a moins affaire peut-être à des représentations qu'à des présences. C'est-à-dire ce qui est là est là. Il n'y a pas à chercher derrière. Il n'y a pas d'envers du décor. C'est la présence, comme je disais, qui fait sens et elle est suffisante. Mais après, il y avait d'autres éléments. Enfin, finalement, on a affaire ici à des séries de fenêtres, à des séries d'arbres, de nuages, de corps humains minimaux qui sont à la fois très proches les uns des autres et toujours différents. Et à nouveau, c'est comme si Rondinone exprimait, donnait à sentir une idée qui est à nouveau simple et en même temps complexe, qui voudrait qu'il n'y ait pas d'identité stable et fixe auquel on puisse ramener tous les différents représentants d'une même espèce, mais finalement qui a que des configurations variables du vivant, qui sont justement ces apparences multiples et toujours changeantes. Et c'est particulièrement, je trouve, frappant avec les nuages, qui précisément sont des sortes d'entités vaporeuses sans véritable substance et qui sont toujours en train de changer, de se métamorphoser.
Oui, parce que vous dites qu'on voit rien d'autre que ce qui est là. Moi, j'ai vu beaucoup d'autres choses, et ces fenêtres opaques, moi, j'ai vu les paysages. Hein. Je ne sais pas si c'est votre cas, Corinne Rondeau.
Non, mais effectivement, il y a quelque chose des correspondances, le mot qu'utilisait, ou d'échanges même, entre les matières lourdes et leur apparence duveteuse. Par exemple, ces graviers, au bout d'un moment, quand on les regarde, on dirait que voilà, ça bouge, le gravier dans le béton, alors que c'est du béton, c'est du gravier, c'est des matériaux qui sont... Voilà. Mais ce qui est très, par rapport à ce que vient de dire Sarah, c'est la dimension d'individuation très forte dans chaque chose, même qu'il fasse un moule, enfin un bronze de noix, de, enfin c'est pas dans l'exposition, mais des grands, quels que soient les matériaux, il y a toujours une individuation dans toutes ces pièces, et toujours en série, donc les séries se répondent à l'intérieur d'elles-mêmes, comme les séries se répondent entre elles. Et donc, ce qui fait le tissu de ça, c'est le rapport de la mise en espace. C'est pour ça que je suis très, très attentive à ce qu'il y a dedans et dehors l'exposition, et notamment le reflet de ce 29 août 2019, qui est une manière de vous dire, restez dehors, mais parce que le dedans est toujours à l'extérieur.
Et puis, pour le coup, à l'extérieur, aux Beaux-Arts de Paris.
We are poems.
Vous dites bien, vous parlez bien anglais.
Oui, parce que c'est Hugo.
We are poems.
Ouais. C'est merveilleux.
Voilà, cette installation qui, j'espère, enfin, va rester le même temps, longtemps,
plus jusqu'à longtemps. Jusqu'au mois de juin, je crois.
Ah, c'est très bien.
Oui. Donc, si vous passez, il faut passer la nuit.
Oui, c'est éclairer. Encore mieux la nuit quand c'est éclairé et vous vous demandez ce que c'est que ces poèmes. We are poems sur un arc-en-ciel. C'est Hugo Rondinone. Et puis cette exposition, donc un mur, 7 fenêtres, 4 personnes, 3 arbres, quelques nuages, 1 soleil, à la mémoire de John Giorno, L'amour de ma vie, Hugo. C'est jusqu'au 23 novembre dans les espaces de la galerie Kamel Menour à Paris. Et avant de conclure cette émission, le jeu de la dispute, David Dana nous a rejoint pour nous rappeler dans un premier temps la question posée hier au soir et nous donner sa réponse. David.
Quel est le thème du festival 2019 Les Utopiales? Et la réponse est coder, décoder.
Ce soir, des invitations à gagner pour le film La Cordillère des Songes de Patricio Guzman, qui est sorti aujourd'hui. On en parlera vendredi dans la dispute cinéma. La question, David.
Avec quelle œuvre Patricio Guzman a-t-il remporté l'Ours d'Argent en 2015?
Votre réponse avec vos coordonnées postales à envoyer par courriel à auditeurfc@radiofrance.com. Cette émission a été préparée par Aïssa Tundoy, Lou Kevauvillier, Lucille Como, Boris Pinot et David Dana. Prise de son ce soir, Jacques Azubert. Réalisation, Émilie Vanna. Toutes les informations sur l'émission concernant cette émission à retrouver sur franceculture.fr à la page de la dispute sur laquelle on peut écouter, réécouter, podcaster nos émissions. Demain, à 19h, une dispute consacrée à la littérature. Je serai en compagnie d'Elisabeth Philippe, Lucille Como et Laurent Nunez à notre sommaire. Encre sympathique de Patrick Modiano, Les Testaments de Margaret Atwood, un coup de cœur d'Elisabeth Philippe pour Nafar de Mathilde Chapuis, un journal de la dispute qui sera consacré à Proust et à ses fétiches.